Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal vous est présenté par Jean-Désiré Kanyama.
Au sommaire, ce matin, le chef d'état-major de FARDC appelle ses hommes de troupes à la discipline et au respect du droit international. Le lieutenant-général Christian Tshiwewe est en mission à Goma, au Nord Kivu, où il a visité les militaires sur la ligne de front à Kanyamahoro. Bientôt, la Cour des comptes va ouvrir à Kinshasa son tout premier procès de l'histoire dans une salle d'audience de standard international. Elles vont concerner le rapport avec l'attribution des marchés de construction des universités à Kinshasa, Kananga, Mbujimayi et à Bunia. L'invité de ce journal est le président de l'association des pêcheurs du lac Kivu. Soleil Kachinze revient sur les menaces d'extinction de ce lac qui n'est plus ce berceau par excellence des espèces halieutiques. Interview exclusive avec Jean Kassami à suivre à la fin de ce journal. Les détails dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le chef d'état-major des FARDC, le lieutenant-général Christian Tshiwewe, poursuit son séjour de travail à Goma, au Nord Kivu, où il est arrivé depuis mardi dernier. Le lendemain, le patron de l'armée a tenu une parade à Mubambiro, territoire de Masisi, 27 km à l'ouest de Goma. Accompagné des autorités militaires de la province, le général Tshiwewe a appelé ses hommes de troupes à la discipline et surtout au respect du droit international humanitaire. On l'écoute dans cet extrait choisi par Denise Lukeso.
Il est strictement interdit de confisquer les biens des populations. Ne maltraitez pas les civils parce qu'ils sont vos frères. Il faut les protéger. La mission des FARDC est de défendre l'intégrité du territoire national, ses frontières et protéger les populations et leurs biens. Il faut vraiment respecter les droits internationaux humanitaires. Si tu prends un ennemi en otage, ne le maltraite pas. Conduis-le à l'état-major. Les autorités vont s'occuper de lui. Quand tu attrapes un ennemi, ne le tue pas. Donne-lui à manger. Administre-lui les soins s'il est malade, qu'il soit bien traité. Je vous souhaite bonne chance et gagner cette guerre.
Après cette parade, le chef d'état-major de FARDC a visité les militaires qui se trouvent sur la ligne de front à Kanyamahoro, dans le groupement Bouvumba en territoire de Niragongo. Sur place, le chef d'état-major général de FARDC a rencontré ses soldats qui veillent sur la défense et l'intégrité du territoire congolais. Notons que peu avant ces deux étapes, le général Tshiwewe a rendu visite aux militaires blessés de guerre internés à l'hôpital militaire de Katindou. En Ituri, pendant ce temps, plus de 100 civils ont été tués depuis décembre dernier par différents groupes armés. Ces chiffres ont été publiés par la coordination de la société civile Force Vive de l'Ituri dans une déclaration à la presse hier jeudi à Bunia. Cette structure fustige l'inefficacité, selon elle, des mesures de l'état de siège dont l'objectif était d'imposer la paix. Elle demande au président de la République de convoquer d'urgence une table ronde pour lever cette mesure exceptionnelle qui, ajoute-t-il, a montré ses limites. Des détails avec Isaac Remouyopi.
Selon les constats de la société civile, 4 territoires sur 5 sont affectés à ces jours par les violences des groupes armés ADF, FPIC, CODECO et FRPI. La gestion de la province est partagée entre le gouvernement et ses milices car l'état de siège n'a pas permis de restaurer l'autorité de l'état en Ituri. La société civile avance un bilan de plus de 100 morts depuis décembre 2022, dont 34 entre les 6 et les 10 janvier 2023. Au moins 700 vaches ont été pillées, 3 camions contenant des marchandises incendiées et des milliers d'habitants ont dû fuir leurs villages qui sont désertés. La société civile de l'Ituri demande notamment au président de la République d'élever la mesure de l'état de siège et au gouvernement de traquer les groupes armés réfractaires au processus de paix, mais aussi d'apporter de l'aide humanitaire à toutes les victimes des conflits dans cette province. Dieudonné Lossa.
Que l'état de siège est dans les possibilités de restaurer l'autorité de l'état en Ituri, les forces vives demandent à Félix-Antoine Tshisekedi de convoquer sans délai la table ronde afin d'élever l'état de siège car son électorat en Ituri a dépend.
Le gouvernement provincial soutient que la situation sécuritaire s'est nettement améliorée depuis l'instauration de l'état de siège en mai 2021. Selon lui, plusieurs villages occupés par les milices sont passés sous contrôle des FARDC et de nombreux déplacés ont regagné leur localité, notamment sur l'axe commando Bunia. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Et toujours en Ituri, environ 200 femmes bloquées dans leurs champs à cause de l'insécurité dans le village Logotapka, en territoire de Djougou, ont été évacuées mardi dernier par la MONUSCO. Selon le vice-président de la société civile de Bahé-Manor, qui l'a déclaré hier jeudi, ces femmes installées sur le site des déplacés d'Héroe cherchaient des vivres. Elles ont aussitôt été encerclées par les miliciens de la CODECO qui avaient envahi plusieurs villages dans la région. Appuyées par des soldats de FARDC, les casques bleus ont réussi à extraire ces femmes avec leur récolte à bord de véhicules de la MONUSCO, ce qui a permis de sauver des vies humaines, a déclaré héritier des Zunga au téléphone de Jean-Claude Lokidile.
Nos populations étaient bloquées et nous sommes venus plaider les cas chez la MONUSCO. Il y avait danger qui se préparait déjà pour si la MONUSCO n'aidait pas la population, puisqu'il y avait des femmes qui étaient parties dans leurs milliers respectifs qui étaient déjà abandonnés au moment des incidents pour aller chercher des vivres. Alors, qui avait laissé leurs enfants? Alors, la famille était séparée des enfants, ça causait déjà tellement de problèmes. Les Codeco étaient déjà dans les environs, dans des villages voisins qui ciblaient l'Ogotak. Alors, il y avait déjà des incidents qui se préparaient déjà. Alors, c'est pourquoi il faudrait qu'on puisse déjouer cette attaque, qu'on puisse donc dépêcher ceux qui ont été bloqués là pour ne pas que le pire arrive. Et la MONUSCO nous avait aidés à notre demande, alors c'est ce qui nous avait beaucoup intéressé.
Je le disais dans les titres, bientôt la Cour des comptes va ouvrir à Kinshasa son tout premier procès de l'histoire dans une salle d'audience au standard international. Elle l'a fait savoir hier jeudi à Radio Okapi dans un entretien importé sur les enquêtes qu'elle mène en rapport avec l'attribution des marchés publics dans la construction des universités de l'UPEN, IBTP à Kinshasa, Kananga et Mbujimayi, dans l'espace Grand Kassai et à Bounia. Une autre enquête dite de veille budgétaire a débuté hier jeudi auprès des instances judiciaires. Des détails avec Jeff Ngoi.
Partant de nos compétences, nous voulons nous assurer de la conformité des procédures de passation des marchés publics. Est-ce que toutes les entreprises qui exécutent les travaux ou auxquelles les marchés ont été attribués remplissent les conditions requises? Sont-elles en règle avec le fisc? Ont-elles été créées juste pour la circonstance? C'est toute une panoplie de questions auxquelles sont en train de répondre des enquêtés. La Cour s'apprête ainsi à juger à décharge et à décharge les faits et les fautes de gestion. Tout le monde est justiciable de cette Cour, sauf les politiques qui ne sont que politiquement sanctionnées. Selon les enquêteurs, lorsque la faute de gestion ou des faits sera établie, les coupables seront sommés à payer des amendes et à restituer l'argent indu. N'étant pas juge pénal, la Cour va transférer les infractions pénales à la juridiction attitrée. Par ailleurs, dans le cadre des veilles budgétaires, pour la première fois, les hauts magistrats de cette Cour sont déployés dans les juridictions de l'ordre judiciaire et administratif pour auditer sur les frais de justice. Question de savoir si le trésor public reçoit régulièrement ce qui lui est dû en provenance de la justice.
Dans la province du Tanganyika, les activités économiques tournent au ralenti dans la ville de Kalemie. Hier, jeudi, était le deuxième jour des deux journées villes mortes déclenchées par la Fédération des entreprises du Congo, Fédération du Tanganyika. La FEC a appelé mardi dernier à ces deux journées villes mortes pour s'insurger contre les multiples cas d'insécurité visant les opérateurs économiques à Kalemie. Les autres détails avec vous, Fulbert Balolagué.
Des sources sur place à Kalemie renseignent que le long du boulevard Lumumba, plusieurs officines sont fermées à ce deuxième jour des paralysies d'activité. Mercredi, marché, pharmacie, magasin, tout est resté fermé. Même les stations-service ne servaient pas du carburant. Dans la nuit de dimanche à lundi, la station Lukuga a été visitée par des hommes armés alors qu'elle est voisine de la SIAT de la police dans la commune du Lac. Elle est aussi la quatrième station-service visitée dans la ville, renseignent certaines sources. Cela a choqué plusieurs personnes. Sur terrain, l'impact est déjà visible. Les automobilistes, par exemple, peinent à trouver du carburant. Un litre vendu à 3500 francs avant se négocie entre 5000 et 6000 francs congolais chez les revendeurs. En dehors de l'insécurité, la Fédération des entreprises du Congo annonce aussi le refus de la perception de la taxe du commerce extérieur par le gouvernement provincial. La FEC juge illégale cette perception. Mercredi, une réunion du Conseil de sécurité élargie s'est tenue à laquelle ont été associés les membres de la FEC. Elle visait à trouver une entente pour la reprise normale des activités sur la ville.
Au Kwilu, les corps gardés à la morgue de l'hôpital général de référence de Bandundu, chef-lieu de la province, pourrissent. à la base des difficultés techniques que connaît cette morgue depuis plusieurs jours. C'est la communauté des jeunes leaders du Kwilu qui les dénonce. Dans une déclaration faite à Radio Okapi, cette organisation de la société civile déplore l'indifférence des autorités et demande à l'autorité urbaine de tout faire pour réhabiliter cette morgue. Du côté de la mairie, des moyens sont en train d'être réunis pour dépanner cette unique morgue de Bandundu qui a la capacité de contenir au moins 38 corps. Le point avec Irène Boma.
D'après la communauté des jeunes leaders du Kwilu, CGL en sigle, c'est depuis la deuxième quinzaine du mois de décembre dernier que la morgue de l'hôpital général de référence de Bandundu ne fonctionne plus. Des cadavres y pourrissent et les habitants environnants ne savent plus bien respirer à cause des odeurs nauséabondes insupportables qu'ils ressentent. Jean-Prince Mbouyi, chargé de communication de ces mouvements citoyens, lance un SOS auprès de la mairie de Bandundu afin de trouver solution à cette situation.
Il y a risque de susciter une épidémie dans la ville. Considérant cette calamité qui dérange la population, la communauté des jeunes leaders demande au maire de la ville de Bandundu de mettre tous les moyens possibles pour le rétablissement de ces dernières.
Contacté à ce sujet, le maire sortant de la ville de Bandundu, Ephraim Kinda, explique ce qui suit.
Nous avons eu un mauvais courant, ça a bousillé les compresseurs, ce qui a fait que nous avons connu des problèmes. Que la population soit calme, nous allons réhabiliter la morgue. Nous sommes en train de nous débattre pour acheter de nouvelles pièces qui nous coûtent extrêmement cher.
En attendant, Ephraim Kinda invite la population à faire usage du formol pour conserver les corps sans vie à la morgue. Irène Boma, Bandunduville, Radio Okapi.
Dans le même chapitre, l'hôpital général des références de Kiamvu à Matadi, nous sommes au Congo central, n'a ni salle d'urgence, ni bloc de soins intensifs. Conséquences, hommes, femmes et enfants, y compris des malades agonisants, se partagent les mêmes locaux dans une forte promiscuité. Ce constat a été fait par le président de l'Assemblée provinciale du Congo central au cours de sa visite dans cet hôpital public. Jean-Claude Vwemba Luzamba promet de rendre compte au gouverneur de province pour qu'une solution soit trouvée. Le point avec Nana Plurich Mambou.
La promiscuité, c'est ce qu'on remarque tout de suite en arrivant à l'hôpital général de référence de Kiamvu. Installée dans la zone de santé de Nzanza, cette formation médicale reçoit des patients de toutes les trois communes de Matadi, alors qu'elle ne dispose que de 80 lits. Hormis cet aspect, cette structure sanitaire fait aussi face à de nombreuses difficultés, comme l'affirme le médecin chef des zones de santé de Nzanza, Dr Ferdinand Ango, devant les présidents de l'Assemblée provinciale du Congo central.
L'hôpital n'est pas clôturé, victime même de vols et de plusieurs biens de l'hôpital, aussi des évasions des malades, donc pas des soins intensifs, pas la salle d'urgence.
Une réalité que Jean-Claude Vwemba a vécu au cours de sa visite et qu'il trouve inadmissible. Il promet l'implication de l'Assemblée provinciale.
Dans cette promiscuité, c'est difficile. Nous allons tout faire, l'Assemblée, et d'ailleurs je le regrette que je ne suis pas venu avant le budget, parce que je l'aurais inscrit au budget. Mais comme certainement il y aura un budget rectificatif, c'est à ce moment-là que nous devons aider l'hôpital général de Kiamvu.
Les préoccupations liées au manque de locaux pour la zone de santé de Nzanza et à la pléthore du personnel dans cet hôpital ont aussi été soumises au président de l'Assemblée provinciale du Congo central. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Et tout à fait autre chose à présent, le championnat d'Afrique des Nations démarre ce vendredi 13 janvier 2023 et ira jusqu'au 4 février 2023 en Algérie. 18 pays prennent part à cette édition, dont la République démocratique du Congo. Des détails avec Vanessa Kongolo.
L'affiche d'ouverture prévoit les derbys nord-africains entre l'Algérie et la Libye. Ça sera à 20h au stade Baraki après la cérémonie d'ouverture qui sera animée notamment par l'artiste congolais Dadju. Pour cette 7e édition, la compétition se jouera dans 4 stades. Stade Baraki d'Alger, stade 19 mai 1956 d'Annaba, stade Milou à Défi d'Oran et les stades Aïd Amlaoui de Constantine. La RDC évoluera dans le groupe B avec l'Ouganda, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Les pays sont répartis sur 3 groupes de 4 équipes A, B et C et 2 poules de 3 équipes D et E. Les 2 premiers du groupe de 4 et les premiers du groupe de 3 se qualifient pour le quart de finale.
Actualité internationale.
Au Bénin, la Cour constitutionnelle a publié la nuit dernière les résultats définitifs des élections législatives tenues dimanche dernier. Les sages confirment les résultats provisoires de la commission électorale qui donne une majorité confortable au Cantalon et un quart des 109 sièges au parti d'opposition, les démocrates. Le taux de participation a été revu à la baisse. Et puis en Somalie, le président Hassan Cheikh Mohamud maintient la pression sur les djihadistes Shebab. Pendant que les opérations militaires continuent contre leurs bastions dans les campagnes, le chef de l'État a organisé hier jeudi un meeting dans un stade de la capitale, Mogadiscio.
L'invité.
L'invité de ce journal est le président de l'association des pêcheurs du lac Kivu. Soleil Kachinze revient sur les menaces d'extinction de ce lac qui n'est plus ce berceau par excellence des espèces halieutiques. Si rien n'est fait, les frétins appelés Sambaza risquent de disparaître. C'est une exclusivité signée Jean Kassami à partir de Bukavu. Suivez.
Soleil Kachinze, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
La fois passée, vous déploriez le fait que les poissons Sambaza étaient en voie de disparition dans le lac Kivu. Est-ce qu'aujourd'hui la situation s'est empirée ou elle s'est améliorée?
La situation continue à s'empirer du jour au jour, puisque de tout ce qui a été retenu dans les conclaves qu'on a fait la fois passée avec le gouvernement provincial, rien n'a été matérialisé jusqu'à temps. Et nous continuons à vivre le calvaire.
Au regard de l'insalubrité autour du lac Kivu, avec tout ce qu'il y a comme déversement de matières fécales de tous les quartiers de Kadutu et surtout de la prison centrale, puisque c'est là où se déverse toute la matière fécale de la prison centrale, est-ce que cela aussi a un impact négatif sur la production des poissons?
Effectivement, la division de l'environnement, le ministère de l'Environnement a rendu le lac Kivu, notamment les bains de Bukavu, un des potoirs pour la ville de Bukavu. Ça a un impact très accru sur la productivité du lac Kivu. L'avenue Mbaki, l'avenue industrielle et tout Kadutu, presque toute la ville de Bukavu déverse dans le lac Kivu à partir de la rivière Kawa, mais aussi vers l'hôtel Jardini. Et vous vous rendez compte que les limons de terre continuent à conquérir les eaux du lac Kivu et le lac s'avance du jour au jour. Il n'existe pas de macrophytes où les poissons se reproduisent et se reposent. Quand ces limons arrivent, ils ensevelissent tout ce qui est au bord du lac et les juvéniles des poissons qui sont aux alentours, ils sont ensevelis par ces limons de terre qui sont amenés par l'érosion. Ça a un impact très, très accru et nous nous posons des questions de savoir pourquoi le gouvernement provincial peut exiger aux organisations comme l'Abralima, la Pharmakina de traiter leurs eaux, mais le gouvernement, à son niveau, il est incapable même de construire ces canalisations qui amènent tous les déchets de la ville de Bukavu dans le lac Kivu. La fois passée, il y a eu une pluie torrentielle qui s'est abattue sur la ville de Bukavu et la plupart des routes urbaines ont été démolies, même les sables, les graviers et tout ça, on les a amenés au niveau du lac. C'est vraiment un calvaire sur le plan environnemental, rien ne va, mais aussi s'ajoutent les marchés pirates qui sont par-ci par-là et tous les déchets sont mal gérés. C'est le lac qui devient le dépotoir et ce sont des espèces halieutiques qui sont en train de disparaître du jour au jour.
Il y a moyen de pouvoir créer ou de mettre en place une centrale de gestion de tous ces déchets-là?
Oui, il y a moyen, puisque sous d'autres essais, nous avions visité les pays comme l'Ouganda et comme Burundi. Tous ces déchets, ils sont capitalisés. Vous voyez par exemple les déchets en plastique, comme les bouteilles de la fabrication des jus, il y a une pilule de bouteilles en plastique et ces bouteilles peuvent être recyclées. Nous avions émis le vœu de voir nos partenaires nous aider afin de pêcher tous ces déchets en plastique-là qui partent endommager l'usine de traitement de l'électricité au niveau de la centrale électrique de la Ruzizi 1 et 2, afin que ces mêmes plastiques, une fois collectés, on puisse les fondre et produire peut-être des pirogues en plastique, des rames en plastique, pourquoi pas des chaises. C'est inconcevable que la ville comme la ville de Bukavu peut importer des chaises en plastique au moment où tous les déchets en plastique produits la ville de Bukavu pouvaient être traités comme auparavant et on pouvait produire des bassins. Tous les matériels des ustensiles de cuisine ou électroménagers en plastique au niveau de la ville de Bukavu à partir des déchets en plastique que produit la ville.
Monsieur Solé Kachinze, merci.
C'était l'invité de ce journal, le président de l'association des pêcheurs du lac Kivu. Solé Kachinze était à Bukavu dans une exclusivité avec Jean Kassami Baralibirou. Fin de ce journal, merci de continuer à les réécouter sur toutes les plateformes digitales de Radio Kapi.